Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. L'homme que je reçois, mondialement connu, est médecin, généticien, chercheur, essayiste et président de la Ligue contre le cancer. Son intelligence lumineuse et son humanisme en font autant l'un des grands acteurs que l'un des grands témoins de ce monde. Axel Kahn publie chez Stock et le bien dans tout ça.
Europe 1.
Bonjour, cher Axel Kahn.
Bonjour Isabelle Morizet.
Axel Kahn, il y a deux éléments fondateurs qui sont à l'origine de l'itinéraire qui vous amène au bout de 60 ans à consacrer un ouvrage au bien. Le premier, c'est ce message dans la lettre que votre père vous a laissé avant de se suicider, soit raisonnable et humain. Le second, c'est d'avoir définitivement perdu la foi, l'année de vos 15 ans, après une crise mystique qui aurait pu vous faire entrer dans les ordres. Mais comment définir le bien, cette notion consignée par la religion?
Alors en fait, l'itinéraire intellectuel de ma vie est venu de là, du caractère difficile de la réponse à la question que vous me posez. Lorsque, effectivement, après une promenade de quelques heures, je me suis rendu compte, en appelant au tribunal de ma conscience et de ma réflexion, les différents aspects, les différents credos du credo chrétien. Je crois en Dieu, en Jésus-Christ, son Fils unique, etc., etc. Et que j'en suis arrivé à la triste conclusion, car ça m'a étonné, que je ne pouvais absolument pas y prêter foi. Alors, tout s'est écroulé, car jusqu'à présent, j'étais un jeune chrétien extrêmement ardent depuis que j'étais un petit garçon. Et je me suis dit que peut-être tout ne devait pas tomber par terre et se briser en même temps que la foi, et en particulier l'humanisme chrétien. Il me semblait que l'humanisme, même s'il cessait d'être chrétien, oui, si l'homme cessait d'être admirable parce qu'il était la créature privilégiée de Dieu à son image, il n'empêche, l'homme ne devenait pas banal pour autant. Et ma vie durant, j'ai essayé de montrer que Dieu, je ne fais pas l'hypothèse de son existence, mais néanmoins, il existe un bien et un mal et tout n'est pas permis.
Donc, il existe une morale universelle.
Il existe une morale universelle dont la racine, pour moi, est ontologique. En deux mots, c'est le sujet d'un de mes livres qui s'appelle « Être humain pleinement ».
Oui.
Des petits êtres humains avec des gènes humains légués par une maman et un papa, s'ils ne sont pas élevés dans une famille, dans une atmosphère, dans un milieu humain, ne développent pas leur capacité intellectuelle, leur psychisme humain. Pour être humain, il faut être humanisé par un autre. Cela s'appelle dans mon esprit, dans mon itinéraire philosophique, le principe de la réciprocité. Cette morale est universelle, car s'il n'y avait pas cette capacité à penser la réciprocité, il n'y aurait pas d'humanité.
Mais la réciprocité peut être négative. Par exemple, dans un monde brutal où le communautarisme agresse, comment oser le bien sans devenir une proie? Comment oser le bien sans se fragiliser? Comment oser le bien quand les forces contraires règnent, ce que l'on constate partout dans le monde?
Il faut reconnaître que le bien ne pourrait pas exister si le mal n'existait pas.
Absolument.
Donc, je résume quand même en un mot. Le bien, c'est ce qui procède de la valeur reconnue à l'autre et de tout ce qui contribue à défendre cette valeur et à la promouvoir. Permettre le meilleur épanouissement de l'autre, veiller à sa liberté, veiller à sa santé, veiller à son bien-être, tout ça c'est le bien et le mal c'est vraiment l'inverse. Mais imaginons, vous Isabelle et moi, Axel, que nous soyons programmés par la culture de manière extrêmement forte ou par les gènes à ne faire que le bien. Le bien cesserait d'être le bien, ce serait notre nature. Et par conséquent, le mal, la violence, l'agression aux autres, c'est malheureusement aussi le prix à payer de la liberté.
Bon, la société, elle s'est plus ou moins policée, mais l'âme humaine, elle conserve son potentiel de sauvagerie. Homo sapiens appartient au règne animal. L'homme est un loup pour l'homme. Les loups sont-ils des loups pour les loups? Alors, si oui, ça prouverait que le vivant, depuis la nuit des temps, a l'instinct de tuer pour ne pas mourir. Donc, le bien ne relève pas de l'instinct.
Il y a les deux. Parlons de la violence. La violence est, on va dire, un résumé du mal. Il y a la violence qui, en effet, est instinctive. Dans les quartiers, on voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'actualités sur ces sujets. Les bandes se battent pour une question d'honneur, pour le flirt d'une fille ou d'un garçon. Ils se battent parce qu'ils se sont défiés. Ils se battent pour un territoire. Mais comme on se bat pour les mêmes raisons, dans tout le monde animal. Et dans ces cas-là, le petit homme n'est qu'un petit mammifère, un petit animal, il n'y a pas que des mammifères qui le font, absolument comme les autres. Et cette propension à la violence, qui appartient fondamentalement à l'instinct du monde animal, nous en avons hérité aussi. Mais il existe deux autres types de violences qui sont extrêmement humaines. Puisque, imaginons que vous et moi, Isabelle, nous soyons les deux premiers êtres vivants sur Terre. Il a fallu que nous nous regardions comme des êtres humains pour que nous nous investissions dans notre humanité. Imaginons que dans votre regard dont j'ai besoin pour être un humain, je ne lise que le dégoût ou le mépris. Rapidement, je vais vous détester, je vais vous haïr et peut-être voudrais-je vous tuer. Par ailleurs, la grande caractéristique de l'interaction entre deux personnes qui se voient comme des humains, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité à penser les pensées de l'autre. Quand je vous regarde là, je me demande ce à quoi vous pensez. Et puis, j'essaye par ma parole, j'essaye par ma mimique de faire en sorte que je vous intéresse. Éventuellement, si on était dans un rapport de séduction, j'essaierais de vous faire rire d'abord. C'est toujours un passage extrêmement intéressant. Et ensuite, si vous voulez, d'engager le chemin vers la séduction et vers l'accouplement. Donc, il y a toujours un effort psychologique sur l'autre. Et on imagine les pensées de l'autre. Or, il y a une forme de mal qui est le mal absolu, qui est celui de la plus grande perversité. Je pourrais être un brutal buteur abominable, un tortionnaire incroyable, voyant dans vos yeux la détresse de votre souffrance et en jouir, et considérer que cela m'emplit de ma puissance, de ce que je suis capable de faire. Et évidemment, cette inhumanité, car il s'agit de la violence inhumaine, elle est profondément humaine en réalité. On parle de bestialité des fois, mais en fait, aucun animal ne peut faire cela. Il n'y a que l'homme qui peut jouir de la souffrance qu'il inflige.
Eh bien, vous imaginez qu'après cette pause, je vais avoir de nombreuses questions à vous poser. Je reçois cet après-midi Axel Kahn, qui fait paraître chez Stock et le bien dans tout ça. Grand point d'interrogation. À tout de suite.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Mon invité, Axel Kahn, généticien, président de la Ligue contre le cancer, fait paraître chez Stock et le bien dans tout ça. Axel Kahn, alors notre espèce est la seule capable de tuer pour des idées au nom d'un schéma mental, en général collectif. Que l'on prenne les nazis qui occupaient de hauts postes sous le Troisième Reich, ou les terroristes qui ont lancé des avions sur les tours du World Trade Center, tous ces hommes avaient des cursus universitaires. Pourquoi l'intelligence ne peut-elle rien contre le mal? L'intelligence n'est pas morale?
Non, ce n'est pas ça. Elle n'est ni morale ni immorale. L'intelligence n'est pas une pensée de l'ordre de la morale.
Mais elle pourrait induire des choses morales.
Si je décide d'utiliser mon intelligence pour lutter contre le mal, librement, je le peux. Si je décide d'utiliser mon intelligence pour faire le mal parce que, pour des raisons religieuses, pour des raisons éducatives, jamais je n'ai mis la valeur de l'autre à un niveau tel qu'elle mérite d'être respectée, parce que mon gourou me dira que l'autre est impur et qu'il faut le tuer, je peux le tuer en mettant vraiment en jeu tous les ressorts de mon intelligence. L'intelligence est au service de la liberté. Mais la liberté induit aussi la possibilité du mal. Donc il n'y a aucune raison que l'intelligence soit une garantie contre le mal.
Alors, puisque vous introduisez la notion de liberté, est-ce qu'on peut dire par exemple que la faiblesse des démocraties est qu'elle laisse toute liberté aux citoyens de commettre le bien ou le mal ?
Oui, mais c'est un sujet que j'aborde beaucoup dans le livre, à partir de la citation très connue de Churchill. Churchill disait par conséquent, Sir Winston, que la démocratie était le pire des systèmes, à l'exclusion de tous les autres. Et il y avait un développement où il insistait, parce qu'il y a les jeux de la démocratie participative, de la possibilité de contester. Et en réalité, je vais faire court, car le développement est long. En réalité, la démocratie n'est nullement une garantie de décider démocratiquement dans le sens du bien. Nullement. Je veux dire que Hitler a été élu démocratiquement. Au premier tour des élections en Algérie, le fils a été mis majoritairement au pouvoir, etc., etc. Cela étant dit, la différence entre la démocratie et la non-démocratie, c'est que la démocratie organise sa propre contestation. Et sa propre contestation crée les possibilités de réparation. Alors que la dictature, de la même manière, peut éventuellement faire le bien ou peut faire le mal. Mais lorsque le mal est fait, tout est fermé, de toute façon, parce que la contestation devient impossible. Donc, en effet, la démocratie est extrêmement complexe, et Winston Churchill a absolument raison. C'est réellement le pire des systèmes à l'exception de tous les autres, car les autres ne permettent pas la correction.
Axel Kahn, est-ce que, comme le pensait Albert Camus, est-ce que, en fait, c'est parce que l'homme est le seul de toutes les espèces vivantes à savoir qu'il est mortel qu'il se révolte depuis la nuit des temps?
Alors, je ne sais pas si c'est pour cela qu'il se révolte. Il se révolte par une capacité intellectuelle à voir la béance qui existe entre son rêve, le monde dont il rêve, celui dont il aimerait qu'il fût, et la manière dont il l'appréhende. Il a cette capacité-là. Mais peut-être que s'il était immortel, il aurait également cette capacité. Maintenant, comme il est mortel, il sait que ça n'est pas dans l'immortalité. Il n'y a pas à attendre des siècles et des siècles et des siècles que ça s'arrange. Si on veut que ça s'arrange, il faut que ça s'arrange maintenant. Donc effectivement, il y a un lien entre les faits d'être mortel et la propension à la révolte, mais pas à la révolte elle-même, on va dire à l'effectivité de la révolte.
Alors Axel Kahn, comment expliquez-vous, vous le scientifique, que les progrès de la science, qui sont exponentiels à notre époque, ne fassent pas battre en retraite les religions? Pourquoi cette soumission des hommes aux dieux qu'ils s'inventent?
Oh, ça, je l'explique aisément. Quand on est déçu du progrès, eh bien, on est comme au jeu de loi. On retourne à la case précédente. Et avant le progrès de la science, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la croyance. Puisque le progrès, nous le pensions, était une promesse d'être heureux, et que, in fine, non seulement ça n'est pas une promesse d'être heureux, mais par certains aspects, on voit bien quels sont les périls qui sont liés au progrès. Eh bien, on va à la case précédente, et la case précédente était la croyance avant la raison. C'est un phénomène extraordinairement important, et la montée des sectes, la montée à nouveau des religions, en islam, c'est parfaitement évident. En islam, il y a eu à un moment donné, on a la pensée d'Atatürk en tête, mais il n'y a pas simplement cela. Dans énormément de pays musulmans, il y a eu, à la fin du 19e siècle, au 20e siècle, une tendance extrêmement importante à aller vers le progrès. Les femmes s'habillaient à l'européenne, au moins en ville, etc., etc.
En Iran, par exemple, dans les années 60.
Oui, mais même en Afghanistan, au moins dans les grandes villes d'Afghanistan. Et puis, ma foi, les guerres, etc. Et s'est imposée l'idée d'une force de ces pays avant que l'on croie à l'idée de progrès, c'est-à-dire avant que les Occidentaux qui ont amené avec eux l'idée de progrès dominent ces pays. Et ça a été un moteur extraordinaire de la déploration du progrès, de ce divorce avec l'idée de progrès et une extraordinaire disponibilité, en effet, à tous les courants islamistes, wahhabistes, etc.
On retrouve tout de suite Axel Kahn.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h, avec Isabelle Morizet.
Il est médecin, généticien, agnostique, humaniste. Il est président de la Ligue contre le cancer. Je reçois Axel Kahn qui fait paraître chez Stock. Et le bien dans tout ça. Axel Kahn, c'est parce que, en fait, vous êtes un humaniste que vous êtes devenu généticien, ou bien c'est l'inverse?
Ni l'un ni l'autre. Je suis devenu généticien parce que j'étais médecin. J'ai choisi la médecine par défaut parce que, ma foi, mon père était philosophe, Jean-François, le journaliste que vous connaissez sans doute.
Il avait choisi les sciences humaines.
Voilà, les sciences humaines, l'histoire, les sciences molles, je disais. Mon frère Olivier,
qui
est le cadet, avait choisi les sciences dures, la chimie théorique, mathématique. Et moi,
sorti
il me semblait...
major de l'École nationale supérieure de chimie de Paris. Voilà. Hein, et ensuite, ayant fait de la recherche.
Ayant fait
Olivier.
De la recherche. Et il était l'un des espoirs de prix Nobel français, vraiment. Il était une immense notoriété internationale, un homme très très remarquable dans son domaine. Et non pas que j'étais en rivalité avec mon père et avec mes frères, mais c'était des gens que je considérais comme remarquables, et d'ailleurs il l'était, et Jean-François qui est toujours vivant l'est toujours, et je ne considérais pas raisonnable de travailler dans le même champ qu'eux. Et par conséquent, tout ce qui me restait, pas la philosophie, pas les sciences molles, pas les sciences dures, c'était les sciences semi-molles, et par conséquent, va pour la médecine.
Attendez, la médecine, pour l'agnostic humaniste, rationaliste que vous êtes, en fait, c'était cohérent. Alors, au bout de combien de temps, c'est devenu presque comme une vocation ?
Très rapidement, ça m'a beaucoup intéressé. Alors, ce n'est pas une vocation, parce que la vocation, ça précède l'engagement.
Bien sûr, mais c'est pour ça que je dis presque.
Voilà.
C'est pour
mais
aller
très
vite.
Rapidement, je me suis passionné. Et je me suis passionné aux deux dimensions de la médecine, qui est la dimension humaine, bien entendu. Je suis un humaniste. Comment quelqu'un qui se dit humaniste pourrait n'être pas très attaché à la nature des relations humaines dans le dialogue du médecin et de sa patientèle, des personnes dont il s'occupe. Mais très tôt également, en deuxième année de médecine, je savais que je voulais surtout me consacrer à une approche scientifique de la médecine. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai été médecin, mais docteur en sciences également, et je me suis engagé à côté des soins que j'ai menés jusqu'en 1992,
dans la génétique.
Je me suis engagé dans la génétique. Alors, en faisant de la génétique, il a fallu en même temps que je m'intéresse à la défense de la génétique contre les brigands de l'idéologie. Et faire de la génétique était également presque impérativement m'intéresser à la dimension éthique.
Ah. Alors, mais je voudrais un petit moment que nous restions sur l'enfance, Axel Kahn. Quand vos parents se sont séparés, votre frère Olivier et vous êtes restés vivre donc avec votre mère et votre frère Jean-François Kahn est parti vivre avec votre père. Comment se décide, comment s'opère un tel partage ?
Là, c'était très fonctionnel, je dirais. Olivier et moi, on était très bons élèves. On était plus petits. Donc les plus petits restent plutôt avec la mère.
Et Jean-François, futur journaliste, était dissipé.
Il n'était pas bon élève, il était bien plus brillant que cela. Mais ce qui consistait et ce qui constituait les matières scolaires l'indifférait considérablement. Et donc il avait besoin, mon père était professeur de lettres, philosophie, il avait besoin d'un soutien pédagogique. Et par conséquent, il était l'aîné, il avait vraiment besoin d'un soutien pédagogique. Donc
oui.
Il n'était pas illogique qu'il allât avec le professeur, notre père, et que nous, gentils mais très bons élèves, on avait vraiment besoin de personne, on reste avec notre maman.
Mais c'est à vous, Axel Kahn, le plus jeune fils, en fait, qu'il n'a pas élevé, que votre père, avant son suicide, a laissé une lettre. Il n'a pas écrit à vos frères. Pourquoi s'est-il adressé à vous ?
D'abord, il faut rappeler un peu les éléments fondamentaux de cette lettre parce que ça va conditionner le reste de ma vie. La lettre commence « Cher Axel, tu es sans doute le plus capable de faire durement les choses nécessaires ». Et puis, il énumère les choses que je dois faire, qui sont
après
dures à
faire.
Après
cette disparition. Voilà.
Et puis, il termine « Sois raisonnable et humain ». Et tout est important. Jamais je n'ai cru être le fils élu des trois, le Benjamin serait le fils élu, ce serait singulier.
On pourrait imaginer que vous l'avez cru parce que vous avez caché l'existence de cette lettre pendant 30 ans.
Mais
frères n'en ont
cela.
Rien su. Pour quelle raison ?
Parce que c'est presque l'inverse. Ce que signifie cette lettre, c'est que le dernier regard, la dernière analyse qu'a fait Jean Kahn de son plus jeune fils, de son fils Benjamin Axel, on va dire, était nuancé. Ce qu'il me dit, c'est « Tu es sans doute le plus capable de faire durement les choses nécessaires. C'est, écoute, je te connais, t'es un peu brutal, t'es un peu brute de décoffrage. Ça m'arrange, j'ai des trucs pas marrants à faire. Je vais te dire, toi, tu peux les faire alors que tes frères ne pourraient pas les faire. » Et puis, au moment de mourir, il m'aime quand même. Et donc, il a une inquiétude. Mais quand même, malgré cette brutalité que je vois en toi, mon fils, sois raisonnable et humain. Vous voyez ? Et donc, comment voulez-vous facilement dire à vos deux frères que votre père a jeté sur vous ce regard, un regard intéressé, car il avait besoin de ses caractéristiques, mais également un regard inquiet de ma brutalité et éventuellement de ma propension à n'avoir pas l'humanité qu'il voulait me voir embrasser. C'est difficile. Et donc, de fait, Olivier n'a jamais su que mon père m'avait écrit cette lettre. Et Jean-François a attendu 32 ans après la mort de notre père pour le savoir.
Axel Kahn, vous aviez donc 26 ans quand vous avez découvert cette lettre dans laquelle il vous demandait d'être raisonnable et humain. Puis-je me permettre de dire que c'est étrange d'écrire le mot « raisonnable » quand on va se donner la mort.
Il s'adresse à son fils. Et de son point de vue à lui, alors je ne le sais pas, malheureusement, je n'en ai pas discuté avec lui. Et si j'avais discuté de son projet de mort avant qu'il ne se donne la mort, peut-être qu'il ne se serait pas donné la mort. C'est toujours d'ailleurs une pensée, un regret que je puis avoir. Mais quand il me demande d'être raisonnable, ce n'est pas dans le sens d'être sage. C'est dans le sens de « mon fils, utilise toutes les capacités de ta raison ». Ce que me dit en réalité, ce qu'il y a dans ce message, en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété. Et c'est comme ça que je me le suis approprié et que j'en ai fait mon propre message, mon propre testament.
Est-ce que ça veut dire aussi que lui a utilisé toutes les capacités de sa raison avant de choisir l'acte ultime qui est de se donner la mort ?
Au moment où il s'est tué, il ne voyait pas ce qu'il pouvait faire d'autre. Mais ça, c'est général de toutes les personnes qui se tuent. Toutes les personnes qui se tuent, au moment où elles se tuent, elles ne voient absolument pas ce qu'elles pourraient faire d'autre.
Mais votre père était beaucoup trop intelligent pour ignorer que son acte provoquerait chez ses trois fils une culpabilité gigantesque.
Oui, mais quand les gens sont dans cette situation de se tuer, ça n'est jamais un élément qui est déterminant. L'élément qui est déterminant chez toutes les personnes, j'en ai connu des suicidants. Et j'en ai réanimé, j'ai fait tellement de choses en médecine.
D'ailleurs, il y a un chapitre passionnant dans votre livre.
J'ai soigné
sur, justement, le fait de devoir réanimer quelqu'un qui décide de se tuer parce qu'il faut lui redonner la chance
J'ai donc soigné des dizaines et dizaines de personnes qui tentaient de se donner la mort. Au moment où ils se donnent la mort, ils sont dans une appréhension du réel. Ils ne sont pas dans la pleine lucidité. Et c'est la raison pour laquelle je dis ils ne sont pas vraiment libres. Ils sont dans une situation où ils ne voient pas ce qu'ils pourraient faire d'autre. Et donc la question ne se pose pas. Donc je termine sur l'interprétation. Ce que me dit mon père, et en tout cas moi, ce que je lègue à mes enfants, à mes élèves, c'est utiliser vraiment votre raison, toutes les capacités dans l'interaction. Et puis, quand vous l'avez utilisé, essayez d'en user de manière la plus humaine possible. L'humanité telle qu'elle est, en respectant les faibles, en n'accablant pas, à un moment donné, la pleutrerie, en n'accablant pas éventuellement une petite lâcheté ou une petite médiocrité. Vous ne devez pas aimer que les fulgurances, que les gens qui sont d'une créativité totalement infinie, que les quasi-génies, le monde, il est divers, il est comme ça, c'est lui qu'il faut aimer. Et avec tout cela, en respectant l'humanité, en utilisant votre raison, déterminez ce qu'est votre devoir. Et une fois que vous aurez déterminé ce qu'est votre devoir, alors faites-le, durement, si nécessaire. C'est ça le message.
On retrouve tout de suite Axel Kahn.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, avec Isabelle Morizet.
Et le bien dans tout ça ? De cette question, vous avez fait le titre de votre nouveau livre qui paraît chez Stock, Axel Kahn. Car cette lutte incessante et inexorable entre le bien et le mal pose des questions qui vous ont toujours obsédé. Et vous avouez, tout au long de ma vie, j'ai souhaité trouver un humanisme sans Dieu, une notion du bien sans transcendance. Vous y êtes arrivé ?
Écoutez, je suis arrivé en tout cas à le définir. Et je suis arrivé à le définir sans faire l'hypothèse du bon Dieu. Maintenant, si la question est « êtes-vous parvenu à rester dans la voie du bien toute votre vie ?», je serais d'une immodestie incroyable.
Vous écrivez d'ailleurs dans ce livre que personne ne peut incarner le bien toute sa vie.
Absolument personne. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que jamais la perspective ne m'a abandonné. Et même quand parfois je m'en éloignais un peu, c'était toujours avec des regrets, avec en réalité des remords et un garde-fou tout à fait extraordinaire. Cette injonction paternelle, soit raisonnable et humain, je le dis dans l'introduction du bouquin, a été pour moi le fil d'Ariane qui m'a permis de ne pas me perdre dans le labyrinthe de la vie et ses multiples pièges. Ce que j'appelle se perdre, c'est à un moment donné tomber carrément dans une situation où le mal, c'est-à-dire la négation de l'importance de l'autre, prospère partout et on a totalement perdu même la perspective du bien. Ça, de toute ma vie, ça ne m'est jamais arrivé.
Alors, Axel Kahn, en partant de la génétique qui a occupé une grande partie de votre vie, on peut faire des métaphores étonnantes sur les notions de bien et de mal. Par exemple, bon, les virus sont là depuis que la vie existe, mais pour se perpétuer, les virus doivent prendre le pouvoir en parasitant, en infectant nos cellules. La vie est donc une guerre permanente au cœur de chacune de nos cellules. Comment la vie pourrait-elle être pacifique, bienveillante et bonne au sommet de ce combat qui aboutit à des êtres humains? Pourquoi le serait-il?
Les mécanismes de la vie n'ont rien à voir avec l'ordre du bien et du mal. Rien à voir.
Vous trouvez?
Rien à voir. La vie a une caractéristique particulière, c'est que tous les mécanismes de la vie concourent à la multiplication et à la diffusion de la vie. C'est le seul mécanisme qui soit important. Et le virus qui est la forme
Mais, je le disais à l'instant, par exemple, en parasitant, en infectant...
Oui, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Le virus est un tout petit être vivant, il n'a pas de machinerie personnelle. Et donc, pour se multiplier, pour reproduire son génome, il est obligé de parasiter l'appareillage cellulaire des cellules de ses victimes.
Bon, alors je m'adresse aux généticiens. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'homme va avoir la possibilité d'agir sur les génomes de ses semblables. Donc la question du bien et du mal se pose de façon cruciale et vous affirmez, Axel Kahn, que l'idée du génome parfait est absolument absurde.
C'est surtout un abandon de ce respect humble que nous avons par rapport à ce qui n'est pas connu et par rapport à la liberté. Qu'est-ce que c'est qu'un génome parfait? C'est par rapport à celui qui a défini les critères de la perfection, et non pas en soi. Or, par les mécanismes dont on vient de parler, qui sont les mécanismes du vivant, le vivant jusqu'à présent, il ne fait qu'à s'adapter pour se perpétuer, et pour continuer de prospérer, dans un environnement qui change toujours. Mais comme je ne connais pas l'environnement de demain, comment pourrais-je jamais avoir l'idée de ce qu'est le génome parfait? Donc c'est une stupidité, c'est un hubris, c'est-à-dire une démesure tout à fait évidente. C'est à peine de l'ordre du bien et du mal, c'est de l'ordre de la stupidité.
Bon, alors j'entends bien, mais je continue quand même de vous poser cette question. Est-ce que le tri des embryons dans un dessin eugéniste, c'est-à-dire qui prône l'amélioration des qualités génétiques de l'homme, est-ce que c'est un fantasme auquel vous craignez qu'on soit un jour confronté?
Alors, s'il s'agit d'un tri d'embryons dans le cadre du diagnostic prénatal, pour permettre à une mère d'éviter d'avoir un enfant qui sera programmé pour la souffrance et la mort en bas âge.
Nous sommes tous d'accord,
voilà,
mais vous savez que ça va bien au-delà.
J'y suis naturellement favorable. Maintenant, je reviens à ma réponse à votre question précédente. Qu'est-ce que c'est que l'enfant parfait? Je ne sais pas ce que c'est que l'enfant parfait. Je veux dire, ce que nous avons comme possibilité, c'est d'aimer nos enfants dans leur diversité. Et les enfants que nous allons avoir, nous avons à les aimer tels qu'ils sont. Nous n'avons pas à les aimer uniquement s'ils se conforment à ce que nous désirons qu'ils soient, bien entendu.
Mais Axel Kahn, vous savez mieux que personne que le transhumanisme prospère en Chine avec l'ambition de créer des lignages de surhumains.
Il ne prospère pas, disons que l'idée en prospère.
Oui,
la
alors
réalité
concrètement, moi j'ai appris avec effroi la naissance en 2018 de deux petites filles chinoises baptisées Nana et Lulu, qui sont les premières transhumaines officielles de l'histoire de l'humanité. Alors, que sont-elles devenues, ces deux petites filles chinoises nées en 2018?
Bien, je crois qu'elles vont bien. Mais leur concepteur, lui, a fait de la prison,
oui.
En revanche. La Chine, c'est pas la seule. Les États-Unis sont très marqués également par cette idée-là. Est un pays qui est extrêmement, on va dire, engagé dans l'idée de l'amélioration eugéniste. Voilà. Pour les Chinois, le tri des embryons ou des petits-enfants à la naissance pour faire des petits Chinois plus intelligents n'est pas du tout quelque chose qu'ils repoussent. Et quand on demande aux Chinois...
Plus intelligents que ceux qui ne sont pas Chinois?
Et quand on demande aux petits Chinois si on pouvait utiliser la génétique pour parvenir à ce but, ils sont 70 à 80% à dire oui. Alors évidemment, des manipulations qui sont présentées comme ayant la capacité de faire des petits Chinois plus intelligents va connaître moins de réactions hostiles en Chine qu'en Europe et même qu'aux États-Unis. Donc il y a tout un gradient ici.
Bon, Axel Kahn, l'immortalité, pour justifier le transhumanisme, est un objectif très souvent annoncé.
En fait, il serait... Sans être un fantasme.
Ou sans être un fantasme. Et pourtant, il serait terrifiant de savoir qu'on puisse y parvenir, parce que ça signifie qu'il faudrait coloniser toutes les planètes du système solaire, ou alors il faudrait cesser de procréer pour pouvoir continuer de vivre sur Terre avec un peuple de vieillards à la mémoire antédiluvienne.
Absolument. Comme vous avez observé, la plupart des planètes sur lesquelles on essaye d'aller ne sont pas très, très accueillantes. Et donc, d'ici qu'on y envoie des milliards et des milliards de personnes,
voilà.
Honnêtement...
Donc, ça veut dire que l'immortalité signifierait
l'immortalité,
plus aucune naissance.
C'est la fin de la reproduction.
Voilà.
Et donc, je vais vous dire, je suis comme vous, j'aime les petits-enfants qui sont nés, j'aime les petits-enfants qui courent dans les bois, qui vont chercher des fraises des bois, qui rient, j'aime les petites filles qui jouent à la marelle, ou les petits garçons qui jouent à la marelle, j'aime les garçons qui jouent à la poupée ou au chemin de fer, les filles qui jouent au chemin de fer ou à la poupée, j'aime les enfants, et par conséquent, un monde où, pour éviter une aggravation encore de la surpopulation, il faudrait éviter de faire des enfants, serait un monde terrifiant, évidemment.
Que répondez-vous, Axel Kahn, à Laurent Alexandre, qui est à la fois médecin et narque et fondateur de Doctissimo, que répondez-vous à Laurent Alexandre qui prétend que parmi ceux qui naissent aujourd'hui se trouve l'être humain qui vivra 1000 ans?
Il reconnaît lui-même qu'il a dit des conneries. Voilà.
Donc, ça mérite d'être très clair.
Voilà, ce sont des conneries, mais il le reconnaît lui-même, il ne le dit plus.
Il ne le dit plus.
En réalité, le mythe de l'immortalité, pour l'instant et pour longtemps, est un fantasme. Et vous savez, quand on propose comme ça un mythe, il faudrait au moins que sur les modèles vivants les plus élémentaires, on se soit approché de cet objectif. Or, sur les plus élémentaires des organismes vivants,
on n'y parvient pas.
On est totalement incapable de les rendre immortels, à part les cellules, mais alors on les rend cancéreuses.
Et en fait, les cellules cancéreuses sont les seules qui possèdent le secret de l'immortalité.
Voilà, c'est à peu près, c'est pas tout à fait les seuls, mais c'est à peu près les seuls qui ont les propriétés des cellules immortelles.
On retrouve tout de suite Axel Kahn.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Axel Kahn, vous, médecin généticien, affirmez ne vous poser aucune question sur ce qui fait tant fantasmer les humains. Que se passe-t-il après la mort? Car, selon vous, tout simplement, il n'y a rien après la mort. Vous dites d'ailleurs avec un humour plein de philosophie, l'humus de mon corps dans la terre permettra peut-être de participer à l'éclosion d'une marguerite. Et l'idée qu'il y ait un peu de molécules d'Axenkal dans une pâquerette, eh ben ça me réjouit.
C'est vrai que l'idée me semble évidemment romantique, mais en plus je suis un amoureux fou des fleurs. Un amoureux fou de la nature. Et par conséquent, alors que je serais disparu, que je serais incapable de voir quoi que ce soit, et en tant que pâquerette, je serais également incapable de penser, d'avoir quoi que ce soit, et d'avoir quelques mémoires que ce soit, l'idée que quelqu'un me cueille,
voilà,
et feuille la marguerite, le cas échéant, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire.
Vous j'aimerais participerez bien, à la marche du monde.
Voilà, je ne vais pas me réincarner, mais je voudrais être effeuillé dans la marguerite que je serai.
C'est magnifique. Bon, puisque selon vous, Axel Kahn, il n'y a rien après la mort, l'âme est donc une création mélancolique de l'homme.
L'homme a créé Dieu, et comme il a créé Dieu, il a également créé l'âme, pour faire de l'homme un équivalent de Dieu dans l'immortalité. C'est extrêmement clair. Et si l'homme a créé Dieu et que l'idée de Dieu est extrêmement satisfaisante, rassurante, notamment pour affronter deux problèmes majeurs. Le premier, celui de la mort. Oui. Je veux dire que s'il y a un monde magique, s'il y a quelque chose après la mort cesse d'être la fin de tout, le début du pourrissement, de la putréfaction, de ce que l'on a observé, qui est assez peu ragoûtant. Non, ça n'est que le corps qui va pourrir. Mon âme, elle, va être immortelle. Elle va rejoindre les grandes chasses, la terre des ancêtres, le paradis d'Allah avec les 77 vierges, etc. Ou bien le paradis des chrétiens, peu importe. Ça, c'est extrêmement rassurant. Et d'autre part, Dieu, c'est ce qui permet d'expliquer ce qu'on ne comprend pas. Il y a dans la nature énormément de phénomènes qu'on ne comprend pas encore aujourd'hui, mais pensez donc qu'il y a 2000 ans, on n'en comprenait strictement rien. Or, c'est très difficile pour un être intelligent, et il y a 2000 ans, les êtres étaient aussi intelligents que nous le sommes. Alors, ils y mettaient Dieu.
Axel Kahn, vous avez souvent imaginé avoir pu rencontrer votre père dans l'heure qui a précédé son suicide. Vous avez souvent imaginé que vous auriez eu les mots, les arguments pour l'en dissuader.
Oui, c'est vrai, et c'est un regret. Vous parliez tout à l'heure, et je n'étais pas d'accord avec vous, de ce que je pourrais reprocher à mon père, une sorte d'irresponsabilité en ayant fait un geste dont il savait qu'il créerait une détresse considérable chez nous. C'est tout à fait à l'inverse. C'est nous qui avons ressenti une gigantesque culpabilité.
Ah, mais j'ai parlé de culpabilité.
Voilà, à ne pas voir qu'il était malheureux. À ne pas voir qu'il était malheureux, alors qu'en permanence, il nous donnait tant. Et je vous ai dit tout à l'heure, c'était un des éléments de notre discussion, que la personne qui veut mourir n'est pas vraiment libre. Je prends souvent un exemple. On est ici à Europe 1, on voit la scène. Imaginons comme ça que, après vous avoir quitté, je rentre, j'aille vers le quai André Citroën, et puis le parc André Citroën, et que je me pose la question, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me tue en me jetant dans la Seine, s'il y a un caillou et une corde, je me mets une corde autour du cou avec la pierre attachée et je jette dans la Seine, c'en est fini ? Ou alors est-ce que je rentre chez moi pour lutiner ma copine ? Ça ne se passe jamais comme ça. Les gens qui se demandent s'ils vont se tuer ne se demandent pas s'il ne ferait pas mieux de rentrer chez eux pour se faire une bonne bouffe ou lutiner la copine. Évidemment, au moment où ils vont mourir, ils ne voient pas ce qu'ils pourraient faire d'autre que de mourir.
Mais si vous étiez arrivé une demi-heure avant le geste fatal
voilà,
de votre père,
mais si j'étais arrivé, mais voilà, si j'étais arrivé avant, j'imagine la scène. Papa m'aurait dit, j'aurais demandé, papa, qu'est-ce que tu vas faire à Rouen ou Havre ? On avait un dialogue très profond, très confiant. Il m'aurait dit sans doute, écoute, c'en est fini, ce monde n'est pas fait pour moi. C'est pas que je veux le quitter, mais il me pousse hors de lui-même. Alors, j'aurais dit, écoute papa, est-ce que tu veux qu'on en parle ? Et j'aurais dit, écoute, oui, je comprends bien, mais je respecterai de toute façon ta décision. Mais c'est peut-être pas la seule solution. Nous, on sera évidemment immensément malheureux, mais ce n'est pas l'élément, tu es libre. Profondément, tu es libre. Mais simplement, la liberté, c'est de choisir, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre me jeter dans la Seine ou aller lutiner ma copine. Eh bien, pour papa, c'était prendre le train pour s'en jeter, ou alors j'aurais imaginé cet alors. C'est-à-dire cette autre solution. Et alors là, j'aurais rétabli les conditions d'un choix. Mon père aurait eu la possibilité, peut-être, de prendre le train pour s'en jeter et mourir, ou alors de s'engager sur la voie dont je lui avais éclairé la possibilité. Et là, il aurait été véritablement libre.
Axel Kahn, la marche occupe une place importante dans votre vie, à la fois comme une quête, peut-être comme une soupape. Vous avez fait de très longues marches d'une pointe à l'autre de notre pays, qui ont fait d'ailleurs l'objet d'un livre intitulé
« De deux livres même.
Deux livres, dont le dernier a pour titre « Chemin ».
Alors « Chemin », c'est les marches de toute ma vie. Oui. J'ai marché au moins 100 000 km en France.
Mon Dieu, permettez-moi d'avoir cette exclamation devant quelqu'un qui justement est agnostique.
Comme vous savez, il n'y a pas de problème.
Qu'avez-vous découvert en marchant ?
D'abord en marchant, j'adore ça, j'ai découvert que j'adorais ça, que en marchant je sais que je vais être heureux et à chaque fois que j'ai marché pratiquement j'ai été heureux. Donc j'ai découvert le bonheur. Et en réalité, je l'ai dit et c'est vrai, je garde un souvenir sans doute mythifié mais extrêmement fort de mon enfance de petit campagnard en Indre-et-Loire, en nourrice chez une paysanne très pauvre. Et j'en garde le souvenir ébloui d'un paradis terrestre. Et j'ai dit que chaque fois que je prenais le chemin pour marcher, je voulais retrouver ce paradis terrestre. Et j'ajoute, car c'est vrai, que ma vie a été heureuse, car bien des fois je l'ai retrouvée grâce à la marche. L'autre raison, c'est qu'il n'y a pas d'activité plus propice à la pensée que la marche.
Or, il ne va pas échapper. Ça fait appel à des stimuli très particuliers, la marche.
D'abord, quand vous êtes dans un état de vigilance, de conscience permanente, avec toute une série de stimulations, par le vent, par le chant des oiseaux, par l'odeur un peu épicée des genêts, au mois de mai, vers le 15-20 mai, etc. Et tout ça, ça évoque des images mentales, ça évoque des souvenirs. Vous reconstituez un univers et ça alimente réellement la pensée.
Mais bon, pour vous échapper, j'imagine que ça ne doit pas être si aisé de parvenir à vous organiser avec toutes les responsabilités qui sont les vôtres, Axel Kahn, à commencer par la présidence de la Ligue contre le cancer. Alors, une question importante, juste avant de faire une pause. À la fin du premier confinement, on a compté 50% de diagnostics en moins du cancer en France, car les dépistages ont été interrompus. Des opérations ont été déprogrammées, ainsi que des chimios, des radiothérapies. Cette situation, on ne parviendra pas à la rattraper.
Non, et elle perdure. Aujourd'hui, on est encore dans une... on est encore dans une situation sanitaire extrêmement difficile. Le bilan sur toute l'année 2020 est que 20% des diagnostics que l'on fait chaque année n'ont pas été faits. Ce qui représente par conséquent 80 000 diagnostics qui n'ont pas été faits. Comme ça continue aujourd'hui, ça doit aujourd'hui être à 90 000, 93 000, 95 000. On connaît le coût d'un mois de retard et tout ça, cela se paiera de milliers, entre 3 000, 5 000, 8 000 morts supplémentaires dans les années qui viennent. Et par conséquent, cette grande période de la Covid, c'est également un long calvaire, un long parcours d'obstacles pour les personnes malades du cancer.
On retrouve tout de suite Axel Kahn.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h, avec Isabelle Morizet.
Axel Kahn, médecin généticien, président de la Ligue contre le cancer, fait paraître chez Stock et le bien dans tout ça. Axel Kahn, j'ai lu sur différents sites, dont celui de l'usine Nouvelle, j'ai lu récemment des déclarations que vous aviez faites au sujet des différents types de vaccins proposés contre le Covid et j'ai appris que pour les vaccins, adénovirus recombinants comme l'AstraZeneca, vous souhaitiez vraiment une étude d'innocuité beaucoup plus poussée.
Oui, elle a été faite d'ailleurs, parce que c'est un vaccin...
Elle a été faite ?
Oui, je crois qu'elle a été faite raisonnablement, parce que c'est un vaccin vivant, et qu'un vaccin vivant, en plus l'adénovirus comme vecteur, je le connais très bien, car dans mes expériences de chercheur et de... dirigeant d'une équipe de recherche, mes premiers essais de thérapie génique, c'est un domaine dans lequel j'ai beaucoup travaillé, ont utilisé comme vecteur de gène l'adénovirus. Donc j'en ai une très grande expérience, une grande familiarité, et je sais qu'il peut provoquer des épisodes fébriles, qu'à très forte dose, il peut avoir un danger, et par conséquent, il
attaquer
fallait...
Attaquer la moelle épinière. Mais parce que, par exemple, certains vaccins adénovirus recombinants sont faits avec de l'adénovirus de singe. Vous avez déclaré, par exemple, normalement, l'adénovirus recombinant ne s'intègre pas dans le génome du patient, il est très vite rejeté. C'est le mot « normalement » qui peut nous inquiéter.
Les adénovirus ne s'intègrent pas dans le génome, enfin, pas de manière significative. L'adénovirus n'est pas un rétrovirus, et donc l'adénovirus ne s'intègre pas dans les génomes de manière significative. Je le sais bien, puisque c'était la difficulté que j'ai rencontrée dans mes essais de thérapie génique. Comme il ne s'intégrait pas dans les génomes, la présence des gènes transportés par l'adénovirus était transitoire. Car quand les cellules se divisaient, le gène médicament, lui, ne se divisait pas et rapidement, l'effet finissait par être perdu.
Donc, les études d'innocuité de l'AstraZeneca sont probantes.
Oui, aujourd'hui, je crois qu'elles sont probantes. Il donne des effets secondaires chez les gens jeunes. Ça, c'est un problème. C'est en effet, curieusement, parmi les vaccins, l'un de ceux qui donne des effets secondaires pseudo-grippaux, parfaitement bénins, mais des fois cognés. Chez des gens entre 20 et 40 ans, chez 20 à 25% d'entre eux, quand ils ne prennent pas de doliprane, de paracétamol, ils peuvent se retrouver au pieu avec 38,5, 39 et des douleurs pseudo-grippales pendant 24 heures, des fois 36 heures. Alors, toujours bénin.
Je rappelle bien évidemment, Axel Kahn, que vous êtes totalement indépendant de tout laboratoire, mais permettez-moi de vous poser cette question. Quel vaccin vous a-t-on administré, puisque vous avez été vacciné contre le Covid ?
Moi, vous savez, j'ai fait partie de ce groupe de médecins, on va dire en vue, qui se sont prêtés à un exercice de vaccination témoin à la télévision, à la radio, pour montrer l'exemple. Donc j'ai été vacciné très très tôt, sous les sunlights, sous les spots de la télévision, et il n'y avait à l'époque que le vaccin BioNTech, et donc c'est le vaccin BioNTech Pfizer qui m'a été injecté.
Alors, depuis le début des années 80, 40 millions de personnes sont mortes du sida. Il n'y a toujours pas de vaccin contre le sida. Quelle explication donnent les scientifiques qui peuvent fabriquer un vaccin contre le Covid en moins de 8 mois ?
Oh, c'est très simple. La Covid est une maladie aiguë, très classique, c'est-à-dire qu'il y a une infection pendant 7 jours, et après il y a des anticorps naturels qui sont fabriqués, et la maladie régresse et la maladie guérit dans 98% des cas. Enfin, 98% des cas sont des formes bénignes. Et ce que fait la réaction immunitaire du corps, un vaccin doit pouvoir le faire. Oui. Le sida, ce n'est pas du tout pareil. Le sida ne guérit jamais. Et donc, la réaction des anticorps du corps, jamais, n'arrête l'infection par le sida.
D'accord.
Donc, on savait d'emblée qu'un vaccin serait facile à trouver. J'ai été un des seuls à avoir prédit à France Culture, je crois, en avril 2020, il y aura un vaccin avant la fin de l'hiver. On m'a pris pour un fou, mais je connais bien les biotechnologies, c'est un domaine que je connais très bien, et j'étais tout à fait assuré qu'il y aurait un vaccin avant la fin de l'hiver.
Alors, je vais dire la Covid, n'est-ce pas ? Familièrement, majoritairement, on dit presque le Covid, mais disons-la.
Non, c'est la Covid, je crois c'est la Covid.
Alors, disons la Covid. Vous déclarez, Axel Kahn, le masque, d'une certaine façon, c'est un pense-bête, un rappel à l'ordre. En fait, c'est le virus rendu invisible. Le masque est une publicité pour la prophylaxie, en même temps qu'une protection. Nous allons devoir le porter longtemps, ce masque, ou bien est-ce que par principe de précaution, l'humanité pourrait vivre masquée comme le font déjà la plupart des Chinois ?
Alors, pas masquée, mais on portera le masque beaucoup plus souvent qu'on ne le portait dans le temps. Et en effet, on se rapprochera un peu de l'habitude des Chinois et surtout des Japonais. Ce sont les Japonais qui sont les fans du masque. C'est-à-dire que je vois bien que dans l'avenir, quand on sera enrhumé, quand il y aura une grippe qui traîne, il y aura beaucoup de gens qui sortiront le masque, ils auront bien raison. Parce que,
Mais ça induit une société de distanciation sociale permanente.
C'est vrai, mais également, il n'y a pas eu de grippe. Il n'y a pas eu de gastro-entérite, il n'y a pas eu, etc. Donc ça, c'est une évolution probable, mais pas porter le masque réellement tout le temps. Mais est-ce qu'on le portera plus ? La réponse est oui, sans doute. Je ne suis pas totalement sûr, mais je suis quasiment persuadé, en effet.
Bon, Axel Kahn, notre conversation touche à sa fin. On a longuement parlé du bien au cours de cette conversation, justement au travers de vos engagements, de la médecine, du progrès, des nouvelles technologies, et surtout de la vie humaine. Le bien est au cœur du nouvel essai que vous faites paraître chez Stock. Colette elle-même écrivait « La beauté n'est pas le bien. La beauté existe. La question du bien ne sera jamais résolue. » Mais est-ce que le bien engendre le beau ?
La réponse est non. Les deux catégories du bien et du beau sont éminemment désirables. Et le monde le plus désirable est un monde où les gens sont pleins de générosité, de compassion, d'entraide, d'amitié les uns vis-à-vis des autres, et où ce qui entoure ces gens est beau. Mais ce n'est pas le beau qui entraîne la sympathie, l'empathie des personnes les unes vis-à-vis des autres, et cette empathie en elle-même n'engendre pas le beau. Ce sont deux catégories désirables qui existent et qui doivent être poursuivies l'une et l'autre, le bien et le beau.
Axel Kahn, c'était passionnant de cheminer ainsi en votre compagnie cet après-midi. Je rappelle le titre de l'ouvrage qui paraît dans la catégorie, bien sûr, essai chez Stock, et le bien dans tout ça. Je vous dis à très bientôt.
Au revoir, Isabelle Morizet.